vite, Mimi. On va louper le début.
Passe devant, j'écouterai. En podcast.
Il y a ces gens qui ne doutent de rien. Dès le matin au réveil, j'imagine qu'ils se glissent dans leurs jeans et t-shirts, chaussettes assorties à l'ensemble, dans le cas où ces dernières apparaîtraient aux yeux du monde, en cours de journée. L'avenir est tout tracé, ils se projettent et ils y vont franchement. Pour ces gens-là, les choix ne sont pas compliqués, c'est fluide, rapide, efficace, alors que pour certains, prendre une décision, c'est un défi. La peur de se tromper est un enjeu de chaque instant. Peut-être la peur de passer à côté de sa vie. Les choix décisifs de nos vies, il n'y a que nous-mêmes pour les prendre, quoique. Mon invité d'aujourd'hui vous sollicite, face à ses doutes, enfin plus précisément son personnage vous sollicite. Dans la pièce « L'embarras du choix », j'ai avec moi aujourd'hui Sébastien Azopardi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec vous. On échangera dans quelques instants ensemble sur cette nouvelle comédie que vous jouerez ce samedi 7 octobre à 20h30 au Théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. Et dans cette émission, l'agité du local, nous parlerons également opéra. On est sur une thématique très artistique aujourd'hui puisque nous sommes allés à la rencontre de la compagnie L'Arsenal d'Apparition qui jouera son spectacle musical Pandora, la première femme, à la Grande Surface à Laval ce vendredi 6 octobre. Avec moi en studio également, Soizic. Pour ta chronique, un autre écho de l'écho, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, je vais vous parler de l'introduction d'une législation sur l'IVG qui semble a priori positive pour les femmes, puisqu'elle va être inscrite dans la Constitution, mais je vais vous montrer qu'en fin de compte, c'est au rabais.
Bien, merci. On va te retrouver donc en fin d'émission. Mais pour commencer, on démarre donc sur un point sur les actualités locales. Le député de la Mayenne, Guillaume Garot, déclare que la République doit reconnaître le rôle des AESH auprès des publics les plus vulnérables. Il déclare soutenir les professionnels qui alertent aujourd'hui sur la précarité de leur emploi. Leur salaire faible, moins de 900 euros net mensuels pour 24 heures par semaine et le manque de reconnaissance de leur profession. Dans son communiqué, il explique qu'à l'Assemblée nationale, avec le groupe socialiste, il a été obtenu le recrutement des AESH en contrat à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée de 3 ans. C'est un premier pas. Il ajoute que chaque année, des amendements sont déposés au budget en ce sens. À chaque fois rejeté par la majorité. Pardon. La fête de la science en Mayenne est coordonnée cette année par le Zoom, Centre de culture scientifique de Laval. Cette fête nationale aura lieu du 6 au 16 octobre. Tous les publics sont conviés à découvrir toutes les sciences de manière conviviale, ludique et interactive. Cette année, la thématique est sport et sciences à l'approche de la Coupe masculine de rugby et des prochains Jeux olympiques et para-olympiques. Plus de 40 animations gratuites sont organisées sur tout le département. Pour découvrir la programmation, je vous invite à vous rendre sur le site du Zoom, www.zoom.laval.fr. Enfin, la 9e édition du Festival alimentaire démarre ce 15 octobre et ce jusqu'au 3 décembre. Des projections de films pour tous les âges, des ateliers jeunes publics, des rencontres, des débats et des lectures sont prévues. Le Festival alimentaire sensibilise aux enjeux alimentaires par le biais de films documentaires, de débats, pour vous proposer des pistes d'action concrètes pour contribuer au droit à l'alimentation. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet CRID, Les Trois Mondes, retenez bien. Hier était le dernier jour pour tenter de remporter vos places pour la pièce de théâtre Ressources humaines qui se jouera ce vendredi au Carré à Château-Gontier. Le grand gagnant est Bruno, qui pourra s'y rendre évidemment avec la personne de son choix. Félicitations encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, des places seront encore bientôt à gagner et c'est là-bas que ça se passe. Je vous le disais, Sébastien Azopardi est mon invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors Sébastien, vous avez coécrit la pièce « L'embarras du choix » avec Sacha Danino. C'est vous, Sébastien, qui l'avez mise en scène et vous jouez également le personnage principal dedans qui est Max. Votre pièce a été nominée au Molière dans la catégorie « Meilleure comédie ». Peut-être en quelques mots, pour nos auditeurs, vous pouvez nous expliquer de quoi parle cette pièce.
Oui, bien sûr. Alors, c'est le personnage de Max a du mal à faire les choix importants dans sa vie et il va demander conseil auprès de ses amis. Et ses amis, c'est le public. Et à chaque fois qu'il doit avoir un choix délicat, comme on le fait dans la vie, un choix professionnel, un choix amoureux, un choix moral, quand on connaît un secret, par exemple, sur quelqu'un, est-ce qu'il faut le révéler, ne pas le révéler, etc. Et donc, à chaque fois, le public va décider quel choix le personnage principal va faire, et ça va transformer son destin et le destin des autres personnages au fur et à mesure de la soirée. Et donc, d'une soirée à l'autre, on ne verra pas la même histoire.
On connaît tous effectivement des gens comme ça qui ont du mal à prendre des décisions, qui parfois sont un peu hésitants, qui ont besoin de consulter leur entourage. Mais comment vous est venue l'idée de rendre donc cette pièce participative et d'inclure le public dans le cheminement du récit ?
Alors, c'est un genre de théâtre que j'apprécie, que c'est un travail que je fais depuis un petit moment. J'avais monté Dernier coup de ciseau, qui est une enquête participative, où si le public mène l'enquête avec le capitaine pour découvrir qui est l'assassin. J'avais fait un spectacle qui s'appelait La Dame Blanche, où on incluait aussi le public, où on jouait à 360 degrés dans la salle et sur scène, etc. Et là, avec Sacha Danino, on avait envie de faire une pièce qui évoluerait complètement suivant les avis des gens et de les consulter. Et il fallait, alors ça c'est, on est parti du concept un petit peu de faire une pièce comme ça avec un scénario à arborescence, c'est-à-dire voilà, on suit le tronc de l'arbre, puis d'un coup on suit une branche, puis une autre et la pièce va se transformer comme ça, va suivre des chemins différents d'un soir à l'autre. Et il a fallu après trouver la matière organique qui allait composer cette pièce et il fallait que le thème de l'histoire soit le même que le concept, c'est-à-dire que ce soit le choix et qu'on allait s'interroger sur nos choix de vie. Évidemment, c'est une comédie. On est là pour s'amuser avec le public. Il y a une part d'improvisation, il y a une part de one-man show, il y a une part de théâtre, de comédie, de situation, etc. Mais en même temps, on interroge vraiment les gens sur qu'est-ce que c'est choisir, qu'est-ce que veut dire faire ce choix, quelles sont les conséquences du choix, quelles sont la dose de culpabilité, les doses de regret, etc.
Exactement, justement, j'allais vous poser la question. Donc, et comme le scénario, enfin le récit n'est pas écrit de A à Z, il y a une part d'improvisation, mais donc une part de performance. Vous n'êtes pas seul sur scène. Comment ça s'organise et comment ça se prépare cette spontanéité du public qui vous fait des propositions et donc, faut vous coordonner en direct avec les autres comédiens. Comment ça se prépare ?
Alors, il y a toute une partie du spectacle qui est quand même écrit. Il y a plusieurs scénarios sont écrits. Et puis, il y a une part d'improvisation qui est dans l'échange que je fais avec le public, où là, on va avoir des débats moraux sur les choix qui sont faits. Et finalement, le public va se décider sur quelque chose. Mais comme l'histoire propose, je vais proposer des choix. Est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je mens, par exemple ? Et le public va choisir soit de dire la vérité, soit de mentir. Et derrière, alors, tant que le choix n'est pas fait, je vais improviser avec les gens. Et à un moment, on va se décider sur quelque chose. Et là, on va repartir sur une des branches du spectacle qui est écrit. Donc, c'est une alternance de moments d'improvisation. Et après, tous les scénarios sont prêts. Les comédiens qui sont en coulisses attendent pour savoir quelle scène va être jouée derrière. Et au fur et à mesure, l'histoire des personnages va évoluer différemment. Est-ce que je vais faire un enfant ? Est-ce que je vais me marier ? Est-ce que je vais quitter ma femme pour aller avec mon amour de jeunesse ? Est-ce que je vais changer de travail ? Est-ce que je vais révéler un secret, etc. Donc tout ça va transformer la vie de tous les personnages.
Du coup, on aborde des thématiques très communes dans lesquelles on peut se retrouver, mais toujours sur un ton comique, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que la comédie est plus difficile à écrire, à interpréter en tant que comédien et auteur de pièces de théâtre ?
Ce qui est difficile avec la comédie, c'est qu'il y a une sanction immédiate. C'est-à-dire si le public ne rit pas, on s'en rend compte immédiatement, ce qui n'est pas forcément le cas de... quand on fait un registre plus sérieux où il n'y a pas de La comédie, on a une réponse sonore de la part du public. Si le public rit, c'est qu'il apprécie la pièce en général, et en tout cas, il y a quelque chose de palpable où on peut se dire ça réussit. Donc quand ça ne réussit pas, on passe une soirée difficile. Et c'est sûr qu'on n'a pas cette pression-là quand on fait quelque chose de sérieux. Mais en même temps, c'est une récompense énorme de sentir un public qui est heureux, un public qui sort et qui nous dit on a passé un moment incroyable. Non seulement on a beaucoup ri, mais en plus on a réfléchi aussi sur nos vies, sur nos choix. Et c'était ce qu'on voulait faire avec Sacha Danino, c'est-à-dire de faire une pièce où on allait s'amuser, où on allait rire, où il allait avoir cette dose de performance, mais aussi où on allait se poser des questions sur nos vies, sur les choix que nous avons faits, et la culpabilité qu'on peut avoir par moment, les regrets qu'on a à d'autres moments, etc.
La pièce est peut-être réservée plutôt à un public adulte d'ailleurs.
Alors on a des familles aussi, les ados peuvent venir, il y a des enfants. Parfois moi j'adore demander, je réserve toujours au moins un moment pour faire parler ou un enfant ou un ado dans la salle. Et vraiment ils s'amusent parce que le côté ludique de l'interaction marche très très bien avec les jeunes et avec les enfants. Même si les thèmes sont sérieux, en fait il y a une dimension ludique, il y a une dimension de jeu. On joue vraiment, les spectateurs jouent vraiment avec les acteurs et ça donne un théâtre très très vivant. Donc les enfants passent un bon moment aussi.
En tout cas, merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous dans cette émission. Je vous invite évidemment, chers auditeurs, à vous rendre au théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe ce samedi 7 octobre pour voir la pièce L'Embarras du choix. C'est à 20h30. Un moment de plaisir en famille pour découvrir donc Sébastien qui était avec nous aujourd'hui dans l'Agité du local. L'émission continue, mais juste après une pause musicale, c'est 1, 2, 3, 4. Ford Fest.
One, two, three, four. Tell me that you love me more. Sleepless, long nights. That's what my youth was for. Thank you.
aujourd'hui, on aime particulièrement les artistes et on se rend maintenant à la grande surface, dans le quartier de Saint-Nicolas à Laval. Alors la grande surface, pardon, c'est un lieu de fabrique artistique mutualisé par plusieurs compagnies de théâtre professionnel. Et c'est d'opéra dont on va vous parler avec la compagnie L'Arsenal d'Apparition qui est en résidence à la Grande Surface. On a pu les rencontrer pendant leur répétition avant la représentation publique du spectacle musical Pandora, la première femme, ce vendredi 6 octobre à 20h30.
On a l'air du ténor.
Non,
pas
encore.
Ah si, c'est beau.
Alors, je m'appelle André Roche, je suis metteur en scène et je dirige une compagnie qui s'appelle L'Arsenal d'Apparition. Et L'Arsenal d'Apparition est une compagnie de théâtre lyrique et musical, c'est-à-dire qu'on fait des spectacles où il y a du théâtre et du chant. Ça peut être de l'opéra de répertoire, comme on dit, c'est-à-dire des opéras qui existent déjà, qu'on remonte, qu'on recrée, qu'on réinvente, ou bien des œuvres de création, comme c'est le cas en ce moment avec ce spectacle Pandora, la première femme, qu'on répète actuellement à la Grande Surface et qu'on présentera vendredi prochain. Alors c'est donc l'histoire de Pandora, la première femme pour les Grecs de la Grèce antique. C'est pas juste une histoire ancienne, le spectacle démarre avec un personnage qui voyage dans le temps. Et ce personnage s'adresse au public d'aujourd'hui et constate avec le public d'aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de problèmes dans notre société, dans notre monde, notamment des relations problématiques entre les hommes et les femmes. Et ça n'est pas nouveau, c'est évidemment une question qui posait souci pour beaucoup de gens dans beaucoup de sociétés, et notamment pour les Grecs de la Grèce antique. Et un poète grec qui s'appelait Hésiode s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des femmes ? Peut-être je pourrais raconter une histoire qui expliquerait pourquoi il y a des femmes, pourquoi seules les femmes enfantent et pas les hommes, et pourquoi les femmes enfantent non seulement des filles, mais des garçons aussi. Et est-ce que cette affaire ne serait pas parfois source de conflits et de problèmes entre les hommes et les femmes ? Donc voilà de quoi il est question. Ce personnage qui s'appelle Tirésias voyage dans le temps donc, et après avoir parlé au personnage et au public d'aujourd'hui, il fait apparaître les personnages du mythe, de l'histoire donc, inventée par Hésiode dans l'Antiquité, avec Pandora qui est envoyée sur Terre par Zeus, le roi des dieux, comme punition. Parce qu'un certain personnage qui s'appelle Prométhée a été volé le feu des dieux pour le donner aux hommes qui étaient très prétentieux et très ambitieux. Et dans le mythe, les hommes étaient tranquilles sur Terre. Il y avait les dieux et les hommes, et les hommes vivaient dans l'abondance, la vie éternelle, tout allait bien, mais ils en voulaient toujours plus. Alors ils ont réussi à avoir le feu des dieux, ce qui leur a donné un pouvoir sur la nature, le pouvoir de faire des armes, le pouvoir de construire, de bâtir, etc. Et Zeus, pas du tout d'accord avec ça, dit « je vais les punir, on va fabriquer une bestiole nouvelle, on va lui donner l'apparence des déesses et on va l'envoyer sur Terre ». Et cette femme arrive, elle s'appelle Pandora, et elle a avec elle une boîte ou un jarre dans laquelle il y a tous les maux de la Terre.
Quand vous avez joué à Verneuil, vous étiez dans des super tempos.
On a cherché dans toutes les dimensions du spectacle, le décor, la musique, le jeu, à faire des passerelles entre aujourd'hui, notre époque contemporaine, et la Grèce antique. Alors on ne va pas tout dire de ce qu'il y a sur scène, mais il y a des colonnes qui pourraient être aussi bien des colonnes d'un temple antique que des colonnes d'un bâtiment industriel d'aujourd'hui. Il y a un grand masque d'un personnage mythologique. Et dans la musique, il y a aussi un mélange, vous l'entendrez, entre des sonorités modernes et des sonorités très anciennes.
Donc moi je m'appelle Solène Ménard, je suis l'instrumentiste de l'équipe.
Je joue du piano, j'ai également un clavier numérique qui utilise du coup des sons imitant les instruments grecs anciens. J'ai aussi quelques cloches et puis un violon. Voilà, donc moi je suis présente sur scène aussi en tant que personnage, ce qui n'est pas toujours le cas dans les spectacles, notamment type opéra. Souvent l'orchestre ou le pianiste qui accompagne sont à l'écart. Et donc là je suis sur scène, visible tout le temps. Je m'extrais même de temps en temps des instruments. J'incarne un assistant du personnage Tirésias qui tire un peu les ficelles, qui dans la situation là nous raconte l'histoire et fait le lien entre le passé et le présent, entre le mythe et la situation présente des hommes en général.
L'idée, c'était aussi de proposer un spectacle qui soit très beau à regarder, très beau à entendre, si possible, j'espère en tout cas. Donc, j'ai travaillé avec un ami compositeur qui s'appelle Dmitri Negrimovski, qui est un compagnon depuis plusieurs années de la compagnie et qui écrit des musiques pour les spectacles. Donc ça, c'est une pièce dont j'ai écrit le livret, où je suis l'auteur du texte, et certaines parties ont été mises en musique par Dmitri, pour donc des chanteurs lyriques, des chanteurs d'opéra. Le compositeur faisait des propositions, des choses en partie écrites, mais pas forcément entièrement écrites. Donc il y avait matière à improvisation aussi de temps en temps. Et puis, petit à petit, c'est arrivé à une forme qu'on est en train de répéter. Le texte est maintenant écrit de manière définitive, la musique aussi, et on est en train de peaufiner la mise en scène.
Je suis Pierre-Michel Dudan et j'interprète le rôle de Prométhée dans ce spectacle, donc Pandora. Moi, j'ai une formation de musicien d'abord, plus jeune, de flûtiste, et puis ensuite, je suis venu au théâtre, et ensuite au chant lyrique. Et donc, dans cet opéra, je chante également, oui. Je chante et je dis pas mal de textes aussi, car je joue un personnage assez bavard, qui est donc Prométhée, qui est donc celui qui voit les choses avant et qui a volé le feu à Zeus pour le donner aux humains. Qu'on a eu la chance de travailler avec le compositeur. Et ça, il est venu très tôt dans les répétitions. Et du coup, voilà, c'était fabuleux quoi, de travailler avec lui. C'est vraiment intéressant. Enfin, on peut voir avec lui ce qui est faisable, pas faisable. Il peut adapter sa musique. Et puis lui-même nous donne les indications. Enfin, c'est l'idéal.
Il ne faudrait pas que le mot opéra fasse peur aux gens. Il ne faut pas hésiter à venir découvrir. Et puis, c'est une technique de chant dont on a moins l'habitude aujourd'hui, parce qu'on l'entend moins dans notre quotidien qu'il y a quelques années. Et du coup, des fois, le texte peut échapper un petit peu, mais... Voilà, il y a toujours quelque chose qui permet de raccrocher à l'histoire. Et puis, effectivement, il y a du texte parlé qui fait le fil, le conducteur. Donc, faut pas avoir peur du mot opéra. Et je pense que c'est une occasion pour découvrir aussi ce que c'est. Et là, en plus, comme on est dans une salle un peu moins grande, il y a une proximité avec les chanteurs qui permet de sentir la vibration de la voix, des corps, etc. Et qui est une expérience assez étonnante. Donc voilà, je pense que rien que pour ça, faut pas hésiter. C'est quelques retours qu'on a pu avoir par le passé du public.
C'est un thème très, très, très intéressant et très actuel. Oui, c'est sûr, ça résonne beaucoup. Chacun effectivement ressent les choses différemment, voilà, qu'il soit homme ou femme, et puis même au-delà de ça, voilà, chacun est touché par tel ou tel personnage ou tel ou tel texte. Il y a du texte de André, puis il y a aussi du texte de Albert Camus qui est très très beau aussi dedans et qui résonne aussi pas mal.
Moi, j'ai trouvé intéressant le parallèle effectivement avec le mythe, le fait que le mythe puisse nous mettre en tête une histoire et à partir de là se re-questionner sur pourquoi ça résonne aujourd'hui, pourquoi ça nous raconte quelque chose et finalement aujourd'hui comment je me positionne moi personnellement par rapport à cette histoire, etc. Et ce que j'aime bien, c'est que entre autres, c'est qu'il n'y a pas de réponse évidente donnée, enfin, il n'y a pas d'ordre donné au public, en fait, sur ce qu'il doit penser ou pas. Ça amène à réfléchir, ça amène à se questionner. Il y a effectivement plusieurs facettes présentées pour amener à une fin, a priori, quand même, un positionnement plus qu'un autre. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais je pense que pour le public, c'est important de se laisser porter et de prendre ce qu'il a à prendre. Il y a des choses qui vont résonner, d'autres choses, ils ne vont peut-être pas s'y retrouver. Et ce n'est pas grave. C'est ça aussi le but du spectacle. Et chacun repart avec son spectacle et son ressenti, notamment par rapport à cette question des femmes aujourd'hui, enfin des relations hommes-femmes, et par rapport à l'opéra, par rapport à la musique. Voilà, chacun se refait son spectacle. Et dans les retours qu'on a pu avoir, les gens ciblent des choses très différentes, en fait.
Ok, et si on s'installe trop là-dedans et si on détaille trop, en fait, on a une partie, puis ça s'arrête, puis il y a une deuxième partie.
Alors, la séance pour les scolaires est à destination d'élèves de 3e. C'est plutôt à partir de cet âge-là. Il y a pas mal de textes dans le spectacle. C'est pas un spectacle humoristique et comique, même s'il y a parfois de l'humour et de la dérision. Mais voilà, ça parle de sujets quand même importants. Ça demande une certaine maturité. Et donc, c'est plutôt pour des adolescents et des adultes à partir de 13 ans, on va dire. Donc, on fait une scolaire l'après-midi à 14h. Et on fait une tout publique le soir à 20h30, ici à la Grande Surface.
J'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Soizic aujourd'hui pour ta chronique Un autre écho de l'écho. Alors tu nous as dit tout à l'heure que tu allais nous parler de l'IVG dans la Constitution aujourd'hui.
Oui, tout à fait, et vous posez la question, comment ça se fait que l'entrée de l'IVG, si on peut dire, dans la Constitution, eh bien finalement, quand on observe bien le droit, eh bien on va voir qu'elle se fait au rabais. Alors incontestablement, la possibilité donnée aux femmes d'avorter s'est accrue dans beaucoup de pays. Pourtant, alors que dans le monde, une grossesse sur 4 se termine par un avortement, eh bien, on a encore malgré tout un plus de 40% de femmes en âge de concevoir qui vivent dans des états aux lois restrictives. Mais plus encore, depuis quelques années, il y a certains pays qui ont fait machine arrière et qui dénient carrément aux femmes un droit qui leur était auparavant accordé. Alors par exemple, en 2020, eh bien, la Pologne a rendu l'IVG quasi illégale en supprimant la possibilité d'y recourir en cas de malformation du fœtus. Ce critère concernait, tenez-vous bien, plus de 95% des 1000 avortements légaux pratiqués chaque année dans le pays. En Italie, de la même façon, eh bien, de plus en plus de gynécos objecteurs de conscience refusent de pratiquer des IVG sur leurs patientes. Et enfin, bien sûr, on en a tous entendu parler, en 2022 aux États-Unis, la décision de la Cour suprême d'abroger l'arrêt qui garantissait constitutionnellement ce droit, eh bien, a fait grand bruit. Depuis, 14 États interdisent aux femmes d'avorter. Alors évidemment, en dehors de tout aspect moral, ce qui n'est pas le lieu ici, eh bien, ces restrictions posent problème, notamment en termes d'inégalité. Parce que, bien sûr, les femmes les plus riches pourront toujours se rendre là où l'avortement est autorisé, alors que les plus pauvres, eh bien, devront assumer toute leur vie la naissance d'un enfant non désiré, voire problématique. Autrement dit, une fois de plus, c'est la double peine pour les plus déshérités. Alors pour éviter une telle reculade en France, eh bien le gouvernement a donc décidé d'inscrire la liberté des femmes à avorter dans la Constitution. Alors a priori, c'est une idée formidable. En effet, inscrire une décision dans la Constitution plutôt que dans une simple loi assure sa pérennité pour deux raisons. La première tient au fait que changer la Constitution pour un éventuel retour en arrière est beaucoup plus difficile que d'abroger une loi. Et seconde raison, la rareté d'une telle procédure, enfin je veux dire par là l'abrogation d'un article de la Constitution, assure un débat public, voire une mobilisation ou démobilisation sociale comme nous en sommes si friands en France.
Mais alors Soizic, pourquoi dites-vous que l'inscription de la liberté des femmes à avorter dans la Constitution est une disposition législative au rabais ?
Eh bien, parce qu'on le sait Margot, le diable se cache dans les détails. Et la liberté d'avorter n'est pas le droit à l'IVG. Je m'explique. Dire qu'une femme est libre d'avorter, c'est la laisser assumer seule sa situation. Elle peut le faire ou pas. Et surtout, l'État n'a rien à voir dans l'affaire. Il est complètement dédouané. Alors que, si la Constitution mentionnait le droit à l'IVG, eh bien il serait de sa responsabilité de veiller à ce que toutes les femmes qui le souhaitent puissent interrompre leur grossesse. Vous saisissez la nuance ? Certes, l'IVG est inscrite dans la Constitution, mais il s'agit seulement d'une autorisation et donc d'une assurance, alors que le projet de loi stipulait bien à l'origine le droit et non la liberté d'avorter. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, c'est un peu une entourloupe du Sénat, en vrai. Parce que le Sénat est beaucoup plus conservateur que l'Assemblée nationale. Alors, ne pouvant politiquement pas refuser ce projet d'inscription dans la Constitution, sous peine d'être taxé quand même d'arriéré, eh bien, il en a modifié la substance pour le rendre possible, mais non garanti. Donc, cette Assemblée, constituée de 70,7% d'hommes, a décidé, une fois de plus, de ce que pouvaient ou non faire les femmes. Et comme ils sont trop chouchous, les sénateurs, eh bien, ils autorisent les femmes à disposer de leur corps. Au final, vous voyez, cela montre bien, Margot, que cette prérogative qu'ont les femmes de décider du renouvellement ou non de l'espèce humaine dérange toujours. Exercer une domination, réelle ou symbolique, a toujours été et reste encore aujourd'hui le meilleur moyen de contrôler cette moitié de la population, à savoir les femmes, dont Aragon disait qu'elles étaient l'avenir de l'homme, ce dont plus personne ne doute.
Merci Soizic pour toutes ces précisions et ces nuances effectivement sur
ouais, la différence entre exactement. Liberté et droit, exactement. Effectivement qu'on ignore au point de départ, mais qui sont fondamentales.
Merci en tout cas. L'AJT du local est terminé pour aujourd'hui. À 19h, vous écouterez Novorama pour une nouvelle sélection de morceaux indie, pop, rock, électro, suivi de The Voice of Cassandra à 20h. Vous pourrez terminer cette émission avec Chaosphère qui arrive à 21h avec la rediffusion de l'émission sur le SL Fest 2023 vu par les festivaliers, les bénévoles accompagnés de quelques sons live. Pour ma part, je vous dis à demain midi 15 pour une nouvelle agitée du local. D'ici là, prenez soin de vous, couvrez-vous un peu aussi, il ne fait pas très chaud mais surtout, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.